journal, Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, des mères de famille menacées par des dealers. Ça se passe en Seine-Saint-Denis, des mamans intimidées pour avoir osé parler du trafic de drogue devant l'école de leurs enfants. Certaines demandent maintenant à être relogées, témoignage en début de journal. Les ONG humanitaires menacées, elles, par l'offensive de l'armée turque, Médecins sans frontières a décidé de quitter le nord-est de la Syrie, devenu trop dangereux pour ses équipes. On entendra l'un de ses dirigeants. À suivre également, cherche manuel scolaire désespérément. Il en manque toujours dans les lycées à deux jours du début des vacances de la Toussaint. On vous parlera également de supermarchés d'un genre nouveau anti-gaspillage avec des cageots de pêche moins belles mais aussi moins chères. Et puis pour finir, du rugby à quatre jours du quart de finale France-Pays de Galles avec encore une polémique qui monte autour des joueurs victimes de commotion cérébrale.
Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui l'agriculteur et essayiste Pierre Rabhi qui publie « J'aimerais tant me tromper », c'est aux éditions de l'Aube.
France Inter.
Et donc pour commencer, Sébastien, le témoignage d'une mère de famille en danger pour avoir osé défier des trafiquants de drogue.
Oui, on vous avait parlé ici même de cette histoire. Il y a quelques semaines, des mamans d'un quartier de Saint-Denis, le quartier Delaunay-Belleville, qui ont décidé de s'élever contre les dealers. Depuis le printemps dernier, elles se réunissent chaque matin pour se donner la main, une chaîne humaine autour de l'école de leurs enfants. Leur combat a été très médiatisé. Certaines n'ont pas hésité à prendre la parole face aux caméras, au micro également. Un autre micro en l'occurrence, et depuis, eh bien, elles vivent un enfer au point que certaines veulent fuir le quartier, comme cette femme Constance qu'a rencontré notre reporter Ajra Mohamed.
D'abord, il y a eu les insultes et les menaces après la diffusion des reportages.
Je suis insultée de baveuse, de connasse, de chienne, de ce qui s'ensuit, qu'on va me frapper, qu'on va me brûler. Tous ceux qui ont parlé, voilà, on va vous brûler. Et j'étais avec ma gamine de 16 mois.
Et depuis quelques semaines, le harcèlement, presque tous les soirs.
On vient sonner à mon interphone jusqu'à des minuit, 1h du matin. Ou quand parfois je rentre de mon travail et je viens trouver des personnes devant la porte d'entrée, pas de mon bâtiment, mais la porte d'entrée de chez moi. Et comme ça, plusieurs jours, c'est de l'intimidation.
Sans oublier les pneus de sa voiture crevés. Malgré une main courante déposée au commissariat, Constance est inquiète pour elle, mais surtout pour ses deux enfants. Aujourd'hui, elle veut quitter le quartier et même la ville.
Ça, oui, partir, j'ai envie de partir. Parce que je suis fatiguée, parce que je n'en peux plus.
Et quand on lui demande pourquoi, elle accepte malgré tout, malgré les risques de nous parler.
Mais parce que j'ai de l'espoir. Je veux encore espérer que ça va changer quelque chose. Parce que ce serait ça, me taire, ça voudrait dire qu'ils ont gagné. Mais donc, pour ne pas les laisser gagner, je dois aller jusqu'à où ? Je dois aller jusqu'à perdre moi ma vie, je dois aller jusqu'à mettre mes enfants en danger. Donc justement, clairement, je fais quoi ?
Les autres mamans menacées, elles, refusent de s'exprimer désormais dans les médias, trop effrayées et trop désabusées aussi, selon Constance. Elles se disent que de toute façon, ça ne sert plus à rien.
Un reportage Ajra Mohamed. Une pétition a été lancée sur Internet pour demander aux bailleurs et à la mairie le relogement en urgence des familles menacées, dont celle de Constance que l'on vient d'entendre. Relogement des familles en danger de Saint-Denis à retrouver sur change.org.
Il est 7h33 et cela fait une semaine que les forces turques ont lancé leur offensive contre les Kurdes syriens. Et pour l'instant, Sébastien, pas question de reculer.
Le président Erdogan l'a redit hier à la presse turque. Pas question de déclarer un cessez-le-feu tant que la Turquie n'a pas atteint ses objectifs, à savoir reprendre une partie du terrain aux Kurdes et y réinstaller des réfugiés syriens. Pas question donc de céder aux pressions internationales qui s'intensifient pourtant depuis hier. Le président russe Poutine a appelé son homologue turc pour se plaindre de la situation humanitaire. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit à nouveau aujourd'hui. Le vice-président américain Mike Pence, quant à lui, arrivera demain en Turquie accompagné du chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo pour demander un cessez-le-feu immédiat. En attendant, la situation ne cesse de se dégrader sur le terrain, au point que certaines ONG ont décidé de rapatrier leurs équipes, comme par exemple le Médecins sans frontières, présent depuis 7 ans dans le nord-est de la Syrie. Écoutez Hakim Kadli, il est coordinateur Moyen-Orient chez MSF.
C'est une décision qui est très difficile à accepter, mais on est obligé de la prendre parce que la condition numéro 1 pour être utile, c'est d'être en vie pour fournir des soins de santé. On avait environ une centaine d'expatriés. On supportait des hôpitaux, on avait des activités dans des camps de déplacés. Il y avait déjà des besoins auxquels on répondait. Il va y avoir des besoins supplémentaires du fait de l'offensive militaire. Donc oui, on aurait eu une utilité dans la situation d'aujourd'hui. On est inquiet pour le personnel syrien avec qui on a travaillé depuis 2013 et qui est resté dans la zone parce que on ne sait pas trop s'ils vont pouvoir rester et bénéficier d'une protection ou s'ils vont devoir quitter la zone et dans les zones où ils vont trouver refuge, s'ils vont toujours pouvoir bénéficier d'une protection.
Hakim Kladi de MSF avec Sébastien Sabiron. L'offensive turque en Syrie, ce sera l'un des dossiers d'ailleurs au menu du Conseil des ministres franco-allemand convoqué aujourd'hui à Toulouse. Un mois et demi après la rentrée, il manque toujours des manuels scolaires dans les lycées, des manuels scolaires papier mais aussi des tablettes numériques. Les régions avaient le choix entre les deux. Ce retard à l'allumage, c'est la conséquence de la réforme du lycée. Les nouveaux programmes pour tous les élèves de seconde et de terminale ont obligé les éditeurs à fabriquer ces manuels en urgence et les régions ont ensuite mis du temps à faire leur choix. Résultat, quelques jours des vacances de la Toussaint, le compte n'y est toujours pas, Sonia Princé.
Chaque région a fait des choix différents. En Ile-de-France, par exemple, les établissements ont opté pour des manuels papier ou numérique. Au total, 660 000 tablettes, dont 20 000 pour les enseignants, devaient être livrées. Marie-Carole Sientu est vice-présidente de la région Île-de-France en charge des lycées.
90% de la distribution sera effective au moment des vacances de la Toussaint. Pour le reste, quelques jours après les vacances, tout doit être terminé. Mais ce qui est certain et ce qui s'entend très bien, c'est que les établissements ont souvent voulu que ce soit les enseignants qui bénéficient des tablettes, qui aient une prise en main de celles-ci, et ensuite on a distribué aux élèves.
Le passage au numérique n'est pas forcément un gage de rapidité, comme l'a constaté aussi le porte-parole des parents d'élèves de la PEP, Hubert Salin. La région Grand Est, par exemple, a choisi le tout numérique, mais dans la Marne, les ordinateurs sont à l'arrêt.
Ce qui est compliqué, c'est les questions d'assurance pour les familles, parce qu'elles doivent assurer pour un prix assez élevé leur matériel sans savoir ce qui va devenir. Il y a les problèmes de charge, il y a les problèmes d'accessibilité au niveau Internet. Par exemple, dans l'établissement, ils sont aperçus en mettant des prises parfois qu'il y avait des questions d'amiante, des choses comme ça. Donc ce sera bien, mais pour l'instant, ce n'est pas encore au point. Il y a eu un sentiment de précipitation au niveau du numérique.
En attendant, les photocopieuses fonctionnent à plein régime depuis la rentrée.
Sonia Princet, les mauvais chiffres de la criminalité à Paris en nette hausse sur un an selon la préfecture de police. Plus 9% depuis le début de l'année pour les atteintes volontaires à l'intégrité physique. Plus 14% pour les atteintes aux biens. Dans la Vienne, c'est un très vieux dossier criminel qui vient d'être résolu. 21 ans après un viol jusqu'ici mystérieux, les enquêteurs ont enfin mis la main sur l'auteur, un homme de 67 ans confondu par son ADN grâce à un papier de bonbon retrouvé dans une autre enquête, une enquête sur le cambriolage d'une entreprise de menuiserie.
Et à 7h37, on en vient donc à ces supermarchés, nouvelle formule des supermarchés anti-gaspi.
Chaque année en France, 10 millions de tonnes d'aliments finissent à la poubelle. Un gaspillage incroyable contre lequel deux jeunes entrepreneurs ont décidé de lutter en lançant en mai 2018 un réseau de supermarchés un peu particulier. Donc, ils ne vendent que des produits qui auraient dû terminer à la benne parce qu'ils ont le malheur de présenter un petit défaut ou une date de péremption trop rapprochée. Après Rennes, Saint-Malo, Cherbourg et Laval, ils s'apprêtent à ouvrir un nouveau magasin à Paris, Sandy Dauphin.
Tu m'en mets 7 déjà. Des clémentines.
Nous sommes au marché d'intérêt national de Rungis, près de Paris. Raphaël Le Tailleur, acheteur, vient s'approvisionner pour les épiceries Nous Anti-Gaspi. Il cherche des cajots bien particuliers.
Voilà, on a de la pêche. Il y a un fruit ou deux fruits qui va être un petit peu marqué dans le colis. Et ce colis-là va finir par partir à la poubelle parce qu'il n'y aura pas de client sur les marchés parisiens qui va accepter de retirer les fruits tachés et les autres ne sont pas assez beaux pour son étalage. Alors que nous, on va les mettre dans nos magasins et les revaloriser.
Les supermarchés Nous Anti-Gaspi proposent des fruits et légumes, produits laitiers, viande, épiceries sèches, des produits qui ont un petit défaut, une date de péremption trop rapprochée ou encore pas la bonne taille.
Par exemple, le calibre d'une orange ne doit pas être inférieur à 53 mm. Typiquement, si une orange fait 50 mm de diamètre, elle ne sera pas vendable en grande distribution.
Charles Lottmann, cofondateur du réseau de magasins Nous Anti-Gaspi.
Le but, c'est donner une seconde chance à ces fruits et légumes, dont une partie va être écartée des circuits de distribution, simplement parce que les produits ne répondent pas à des critères esthétiques. En moyenne, on propose les produits 20 à 30% moins chers dans nos magasins qu'en grande distribution.
Cette nouvelle chaîne de magasins anti-gaspillage espère ouvrir 20 points de vente d'ici 2 ans et devenir rentable l'année prochaine.
Un supermarché anti-gaspi, reportage de Sandy Dauphin en cette journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. La plateforme de livraison Deliveroo fait un geste en faveur de ses livreurs avec la création d'une couverture en cas d'arrêt maladie, 30 euros par jour en complément de ce que verse la sécurité sociale. Direction le Japon pour terminer. Le Japon et la Coupe du Monde de rugby. agité par une nouvelle controverse autour des commotions cérébrales. Les Français joueront, on le sait, dimanche prochain contre le Pays de Galles, quart de finale très attendu. On ne connaît pas encore la composition des équipes, mais déjà la composition galloise pose question. Les Gallois qui s'interrogent autour de leur ouvreur, Dan Bigard, victime de deux commotions cérébrales durant cette compétition, et pourtant, il devrait jouer contre les Bleus, il a même repris l'entraînement, de quoi interroger alors que la sécurité des joueurs devrait être au cœur des préoccupations. Les explications sur place de notre envoyé spécial Jérôme Val.
Une première commotion contre l'Australie fin septembre et 10 jours plus tard face aux Fidji, un nouveau coup à la tête qui l'a laissé groggy au sol plusieurs minutes. Dan Bigard était pourtant à l'entraînement hier et devrait tenir son rang dimanche contre les Français, un choix qui suscite déjà la controverse. L'ouvreur gallois n'avait pas réussi un test médical après son premier choc, test censé protéger la santé des joueurs, mais les médecins de l'équipe ont estimé qu'il pouvait être aligné contre les Fidji, où il s'est donc à nouveau blessé, et quand on sait que c'est la répétition des commotions qui dangereuse pour le cerveau, il y a de quoi s'interroger. Avant cette Coupe du Monde, la Fédération Internationale s'était targuée de faire de ce dossier une priorité. Elle avait demandé aux arbitres d'être très sévères dans ce secteur. 7 cartons rouges ont été distribués, un record, mais la gestion du cas Bigard jette le doute. Surtout au regard des déclarations il y a quelques jours de l'ancien capitaine gallois, Sam Warburton, qui a dû mettre un terme à sa carrière à 29 ans à cause de blessures. Si rien n'est fait, a-t-il dit, un joueur pourrait mourir pendant un match. Oita, Jérôme Val, France Inter.
La quart de finale France-Pays de Galles, c'est dimanche prochain à 9h15 dans la ville d'Oita au Japon.
Merci Sébastien Legénie.